présente. J'ai bien aimé tes trois systèmes, hein, sur le système agro-industriel, sur les systèmes intermédiaires et puis les systèmes de subsistance, parce que au fond tu l'appliques toi au système alimentaire, et on pourrait aussi l'appliquer aussi à la recomposition de l'agriculture et de l'organisation de la production en agriculture, avec des agricultures de firmes et qui se développent en France même, des agricultures familiales qui deviennent des agricultures intermédiaires parce qu'elles sont très tiraillées entre le système, entre le système de firme, enfin l'agriculture de firme, et des agricultures de subsistance, parce qu'elles sont progressivement disqualifiées, ce qui est un gros problème politique pour nous. Et puis ce qu'on pourrait appeler un troisième type d'agriculture qui mélange autour de la micro-agriculture, de la micro-entreprise agricole, qui va de la permaculture à l'agriculture biologique, et à des agricultures de survie, parce qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom. Donc il y a bien une tripolarité, et j'étais intéressé de voir cette correspondance de la tripolarité de la recomposition des agricultures qui s'applique à la France, qui s'applique à l'Europe et qui s'applique au monde. Hein. C'est clair. Et cette correspondance avec les systèmes alimentaires, ça c'est vraiment intéressant. Et on voit que la ligne de fuite, aussi bien pour recomposer les agricultures que recomposer les systèmes alimentaires, c'est la territorialisation. Ça, c'est quand même vraiment très, très puissant comme orientation et comme dégagement. Hein. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage, je trouve, et la prospective qui permet quand même de prendre conscience que si on laisse continuer les tendances lourdes, on va à la catastrophe. Donc il y a quand même vraiment un coup de barre à donner. Voilà. Mais bon, ça c'est ma méditation à moi. Mais la vôtre est sûrement plus intéressante. Ça va. Allez-y.
J'ai quand même une question, parce que du coup, toute expérience a quand même des choses positives. Donc, ce qui s'est passé jusqu'à présent par rapport à l'agriculture, là, c'est un tableau très noir, mais il y a peut-être des choses quand même à tirer des expériences passées, puisque ça a quand même permis aussi de nourrir et de faire en sorte que l'augmentation de la population puisse être nourrie. Donc, est-ce que ça, c'est quand même des choses que vous essayez de regarder? Ça ne veut pas dire quoi? Je pense que quand il y a eu une expérience, il y a aussi forcément des choses intéressantes à reprendre du passé. Et dans ce cas-là, quelles sont-elles? Est-ce que vous avez...
Alors, tout à fait d'accord. Il faut faire un bilan. Il y a des acquis et puis il y a des externalités négatives, comme j'ai expliqué. Et vous dire, ma principale préoccupation aujourd'hui, c'est que vont faire les pays du Sud. Parce que quand vous allez discuter dans les ministères de l'agriculture au Sud, etc., il y a une espèce de fascination pour ce modèle agro-industriel. Et les ministres disent, on va faire comme vous, parce que ça a marché. Eh bien, justement, non. C'est plus possible à cause des histoires de changement climatique, etc. Et donc, il faut qu'ils sautent une étape. Le développement, ce n'est pas une marche linéaire, et on fait tous du mimétisme. Non, ce n'est pas ça. Et sauter une étape, c'est ce que fait Zamboujo, là, au Bénin. Il faut passer directement à l'agroécologie. Mais ça signifie que, bon, il y a des problèmes de gouvernance énormes. Il y a le problème de la corruption derrière, il y a l'influence des lobbies, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, qui fait que ça ralentit beaucoup les évolutions. Et ces expériences très novatrices ont du mal à se multiplier. C'est là qu'est la principale préoccupation. Je crois que chez nous, j'allais dire, la messe est dite, hein, ce modèle qui a rendu grand service, et je l'ai signalé, il est à bout de souffle maintenant. Et bon, d'ailleurs, quand on discute avec les responsables agricoles et agroalimentaires, ils en sont conscients. Mais évidemment, les acteurs économiques ont un modèle d'affaires, comme on dit. Et tant que ce modèle d'affaires est rentable, eh bien, on essaye de le prolonger. On fait des adaptations à la marge, etc. Mais là, il faut vraiment donner un coup de barre, hein, comme tu as dit, un peu plus prononcée, parce qu'il y a des crises extrêmement graves qui nous menacent. Bon, par exemple, cette histoire de diabète de type 2, c'est quelque chose de dramatique aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que la mortalité par le diabète augmente de façon effrénée, et le système social n'est pas le même que chez nous. Les médicaments coûtent très cher. Donc il y a des gens qui meurent, parce qu'ils ne peuvent pas se payer ça. D'ailleurs, l'espérance de vie aux États-Unis diminue. Bon, alors, évidemment, la principale cause, c'est la drogue et puis les armes, hein, etc. Mais on voit citer dans les causes de diminution de l'espérance de vie, il y a la malbouffe. Donc oui, aux expériences. Bon, si tu permets, je vais quand même prolonger, parce que dans les innovations du modèle agro-industriel, j'ai cité notamment les robots, etc. L'agriculture de demain, c'est pas le retour à la traction animale, évidemment, c'est pas pensable. Hein. Donc on va utiliser dans l'agriculture, dans ces fermes multi-activités, etc., on va utiliser le numérique, on va utiliser l'aide de robots, etc., parce que le travail physique est très pénible. Voilà. Hein. Donc mais il faut pas aller vers des fermes de 9 millions d'hectares, etc. C'est pas possible, ça, pour les raisons sociales.
Je voudrais juste ajouter et compléter par rapport à votre question sur ce que ce modèle a apporté, sur ce modèle familial intensif des années 60. Il faut garder en tête, et c'est très, très important d'un point de vue politique, c'est que ce modèle-là, il a été une conquête du monde agricole. Il a marqué une sortie de l'archaïsme. On était à 32%, 33% de population active et on n'assurait pas la couverture alimentaire. On avait des rendements absolument. On était à 30 quintaux à l'hectare. On a gagné un quintal à l'hectare de rendement par an pendant 30 ans, ce qui est absolument jamais vu dans l'histoire. Enfin, bon, tout ça. Et alors, cette épopée glorieuse, elle a eu des résultats avant qu'on en voie les effets non désirés. Hein. Et donc, comme ça a été une conquête d'une force sociale, c'est bien plus difficile d'abandonner un modèle qui était le fruit d'une conquête que d'abandonner un modèle qui a été le fruit d'une décision technocratique. Et donc, vous voyez, c'est imprimé dans le mouvement social. Et ça imprime fortement la culture des organisations professionnelles, du syndicalisme agricole. C'est une difficulté culturelle qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, et vis-à-vis du monde agricole, c'est extrêmement difficile de faire ce que Jean-Louis vient de faire, qui peut être perçu par le monde agricole comme une condamnation. C'est seulement une analyse de ce qui s'est passé. C'est pas la condamnation de ce qui a été fait, qui était sûrement la meilleure porte de sortie au moment où ça s'est fait. Mais voilà, comme le dit Pinani, c'est parce qu'une politique a réussi qu'il faut en changer. Puisqu'une politique, elle est faite pour changer le monde, et une fois que le monde a changé, eh ben, il faut changer de politique. Mais, Sandra, oui.
J'aurais une question, et enfin, deux questions, en fait. Il me semble qu'il y a quand même un angle mort d'une chose dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est les conditions de la concurrence internationale. Et c'est la possibilité d'assurer cette transition dans un univers de libre-échange. Donc j'aimerais, voilà, que vous parliez de ce point. J'ai trois questions. Pardon. La deuxième, c'est... j'ai l'impression que se dessine, en tout cas si on reste dans cet univers de libre-échange, qu'on va vraiment vers une... j'ai l'impression que c'est une convergence de toutes les interventions d'aujourd'hui vers une répartition et une sorte de fragmentation de l'univers de la consommation, entre une consommation qualitative qui se passe dans les circuits courts avec tous les labels possibles et imaginables, et une consommation de les étages, enfin, voilà, et la dernière question, c'est vous parliez, Bertrand, de ces trois modèles agricoles, donc agro-industriel, intermédiaire et ce que vous appelez micro-agriculture. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur pour essayer d'avoir une idée de leur part aujourd'hui dans l'agriculture française?
Je réponds aux deux premières.
Oui.
Alors, la concurrence internationale, bon, d'abord, s'est sérieusement ébranlé avec l'affaire, les affaires Trump. Et deuxièmement, oui. Alors justement, j'y viens. L'Union européenne, si elle subsiste, qui est tout à fait souhaitable, c'est quand même le premier marché alimentaire du monde, hein, et la première puissance exportatrice aussi alimentaire du monde. Hein. Donc ça signifie qu'on peut avoir une politique alimentaire européenne qui s'affranchisse un peu des règles internationales lorsqu'elles sont gênantes pour le développement de l'alimentation durable. J'ajoute une deuxième chose, je l'ai esquissé dans les stratégies possibles pour la France et pour l'Europe. Il ne faut pas, en stratégie, on dit qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes gros et vous faites de la production de masse, et donc vous diminuez les coûts parce que vous avez des très très gros volumes. Hein, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la domination par les gros. Et ce n'est possible que si vous avez des dotations aux ressources considérables. Hein, donc par exemple pour la terre, je l'évoquais, les deux Américains. Voilà la première stratégie. Nous, on ne peut pas, enfin à mon avis, on ne peut pas suivre ça, et alors qu'on a des atouts pour différencier. Donc si vous vous différenciez, en fait, vous échappez à la concurrence du bas de gamme que je viens d'évoquer, des volumes. Donc il faut aller monter en gamme, ça a été évoqué aussi dans les GRA, etc. C'est ça la solution. Donc on échappe à une concurrence frontale. Mais pour ça, il faut que les dispositifs institutionnels soient sauvegardés. Et là, je reviens à l'Europe. En particulier, ce dispositif des indications géographiques, AOP, IGP, STG, ça doit être préservé, alors qu'ils sont évidemment combattus par les États-Unis, par le Brésil, par l'Inde, etc. Il faut tenir bon là-dessus. Et grâce à ça, on va répondre à une attente du consommateur qui a besoin de savoir d'où vient ce que je mange. Alors, deuxième question, la fragmentation de la consommation, vous avez tout à fait raison. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un gros risque, c'est que, on l'a vu dans les statistiques, tout ça, c'est qu'il y a deux catégories de consommateurs. Consommateurs à haut revenu et haut contenu culturel. Et donc, eux, ils vont se payer le bio, le patrimoine culinaire, etc. Bon, ça représente déjà, j'ai fait des estimations, pour la France, c'est quand même 20% déjà du chiffre d'affaires de l'alimentation en France. Ça, c'est pas négligeable. Et puis 80%, moins riches, moins éduqués, etc., qui va se contenter d'une nourriture lambda, qui souvent est nocive pour la santé. Alors tout ça, ça va être lié à des actions publiques, notamment des actions comme le PNNS, etc., hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de l'éducation alimentaire, enfin, tout ce dispositif que j'ai évoqué. Parce que, évidemment, dans une république, dans une démocratie, il est inacceptable que les inégalités alimentaires se augmentent. Hein. Il y a déjà des chiffres préoccupants, il ne faut pas que ça augmente. Donc il faut trouver des solutions pour une alimentation de qualité pour tous. Et là, ça renvoie à ce que j'évoquais sur le budgétaire. Alors sur les indicateurs, je crois que tu es mieux placé que moi.
Oui, non, je ne suis pas très bien placé, mais je ferai une réponse un peu en forme de question. On se targue beaucoup d'être un grand pays exportateur, la France, parce que la balance commerciale agroalimentaire est bénéficiaire. Sauf que si on enlève le vin, les spiritueux, on devient déficitaire. Et on a surtout un déficit chronique et qui s'enfonce tous les ans, c'est celui des fruits et légumes. Ce qui est quand même un vrai drame, parce que la France a tout à fait les capacités d'être tout à fait autosuffisant en fruits et légumes. Et de ce point de vue-là, ça ne règle pas le problème, mais j'apporte un petit élément de réponse, c'est que ces micro-fermes, ces micro-entreprises émergent dans le monde agricole, avec des acteurs qui, la plupart du temps, viennent non pas du monde agricole, mais plutôt de l'extérieur, dans des parcours professionnels qui sont assez complexes, d'ailleurs, c'est plus des parcours professionnels pour la vie, c'est souvent un moment de la vie, bon, ce qui simplifie pas les choses, mais enfin, c'est une donnée qui rejoint la mobilité de nos sociétés. Et donc, cette émergence-là, qui a cessé d'être marginale, se tourne principalement vers le maraîchage, vers les fruits et vers les légumes. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui mérite d'être encouragé plutôt que d'être disqualifié avant de commencer. Quoi. Mais ça suppose une organisation de ce secteur, un encadrement, parce que ce sont des structures économiques très fragiles qui demanderait un encadrement très très fort, qui n'est pas encore obtenu. Mais donc voilà. Alors, et sinon, pour répondre, quand tu me corrigeras, Jean-Louis, mais je crois avoir en tête que 140 000 exploitations sur 260 produisent 90% de la production. C'est-à-dire que si je caricature encore un tout petit peu et me projette dans 10 ans, avec 140 000 exploitations, l'affaire est bâchée du point de vue de la production de matières premières. Pas de production. Et donc, il y a une tendance lourde là qui est très, très préoccupante.
Et continuez à faire la concentration.
Ah oui, oui, c'est clair. Et les derniers chiffres qui sont tombés, là, sont encore... on est encore à moins de 5% d'exploitation par an. Hein. Donc on n'arrive pas à relever ce... Et non seulement on diminue, on se concentre, mais on se financiarise. Hein. C'est-à-dire que l'affaire du rachat de terres par les Chinois dans l'Indre ne doit pas cacher la forêt de la pénétration beaucoup plus insidieuse de capitaux financiers dans des formes sociétaires qui apparaissent comme des exploitations familiales, mais en fait qui sont des formes sociétaires qui sont en train de se financiariser, même si le capital familial est encore dominant, mais qui sont pris dans un processus d'abstraction très, très neuf, hein, vraiment très neuf. Et ça, c'est un autre sujet sur la financiarisation de l'agriculture qui méritera d'être évoqué. Bon, question. Ah, monsieur.
On ne représente plus.
Ouais.
Je suis un peu dubitatif sur deux éléments qui sont un peu les deux équilibres entre cette globalisation et un peu dans le sens de la question de Sandra. J'ai l'impression que voilà, le modèle territorialisé que vous avez présenté, théoriquement il est très séduisant, mais dans ce système globalisé, voilà, j'ai encore du mal à voir comment les choses s'imbriquent. Moi je veux bien qu'effectivement on essaie d'être autosuffisant. Je travaille sur deux territoires, pour être concret, sur Albi, la communauté d'agglomération d'Albi a fait un choix d'autonomie alimentaire. Alors, ils ont défini un rayon à 150 km autour de la communauté d'agglomération. En gros, on vise à 2050 une autonomie alimentaire à 50%. Mais on voit bien que dès qu'on réfléchit là-dessus, bon voilà. Alors, demain, moi, j'ai envie de continuer à manger des bananes et des ananas.
Oui.
Voilà. Donc cette notion-là, je trouve qu'il y a une espèce de vocable, de communication
presque. Mais peut-être pas des pommes du Chili.
Peut-être pas des pommes du Chili, on est d'accord. Mais voilà, il y a une diversité de produits qui fait que, alors peut-être parce que je me range dans la catégorie gauche que Kredoc nous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, qui aime plutôt le goût, la saveur et encore ces choses-là, mais on s'est dit que c'était générationnel, peut-être ça ira mieux pour les suivants. Mais enfin, voilà, cette diversité d'aliments, il faut quand même encore la trouver. Et puis, quand je prends un autre exemple concret, qui est voilà, comment on agit vraiment en local, enfin, une autre interrogation, comment on agit vraiment en local. Toulouse Métropole vient de se doter de 3 agents sur la question de l'alimentaire et de l'alimentation. Bon, ils sont contents, c'est bien, ils le disent. Après, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire. Quand on définit dans les documents d'urbanisme, je travaille à l'agence d'urbanisme, des territoires agricoles protégés, aujourd'hui, dans l'agglomération toulousaine, on est encore sur l'extensif irrigué avec du maïs ou du céréal. Quand on veut installer des maraîchers en cherchant encore quelques bonnes terres pour du maraîchage, on arrive à avoir les terres, on arrive, même les collectivités arrivent à présenter, etc., sauf qu'ils n'ont pas de maraîchers. Il n'y a personne qui veut s'installer. Donc il y a vraiment cette question-là de ces deux échelles et comment... Enfin voilà, et dans ce qui est en tout cas mon quotidien, c'est quelle place vous verriez pour notamment les collectivités, en quoi elles peuvent aider ou favoriser cette question alimentation. Dans les... Voilà, monsieur, dans votre schéma, ce que vous nous avez planté, on voyait les grandes instances internationales, européennes, éventuellement nationales. Sur les autres échelles, il y avait le nom des collectivités, mais on ne voyait pas tout ce qu'elles avaient.
Très bien. Donc évidemment, il n'est pas question d'interdire, de rendre impossible la consommation de bananes, de chocolat, etc.
Surtout le chocolat.
Voilà. Bon, par ailleurs, il y a aussi une réflexion. Hein. C'est qu'on est quand même dans un monde interdépendant, et mettre des barrières douanières, c'est sans issue. On va continuer à exporter. Donc si on exporte, ça veut dire qu'on va importer aussi. Il faut ménager les choses. Mais ceci dit, comme on l'a signalé, le degré d'autosuffisance de l'Union européenne et de la France en aliments a beaucoup chuté, alors qu'il y a un potentiel qui est là. L'échelle pertinente pour construire des systèmes alimentaires territorialisés, évidemment, ce n'est pas la communauté de communes, ce n'est pas le département, c'est la région, parce que dans la région, vous allez pouvoir offrir un panier de biens suffisamment diversifié. Les nutritionnistes vous disent il faut manger varié. Hein. Il faut manger et bouger, mais manger varié. Et donc, ça signifie que le rayon doit être assez large. Et dans, j'ai regardé un peu pour les 13 régions françaises, hein, bon, à part l'Île-de-France, évidemment, il y a une possibilité d'augmenter l'autonomie alimentaire qui est vraiment significative. On est en train de travailler sur un programme en Occitanie, là, justement. Et il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, il y a un programme alimentaire au niveau de la région qui se fait. Et on a estimé le niveau d'autosuffisance qu'on pouvait atteindre en Occitanie, il peut être très important. Parce que toutes les productions végétales et animales sont présentes dans la grande région. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rêver. Alors vous parlez d'Albi, c'est très bien qu'on fasse un plan alimentaire à Albi, à Toulouse, à Montpellier, etc. Mais ce n'est pas la bonne échelle de gouvernance, encore une fois. Et je voudrais également embrayer sur la question de ces programmes urbains qui sont très intéressants, mais souvent ils se font dans le cocon urbain, si je puis dire. Et moi, j'ai l'exemple de Montpellier, parce que la métropole de Montpellier a construit un programme de gouvernance alimentaire. C'est la métropole. Et en même temps, on était en train de faire, à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, un programme de développement agricole et alimentaire. Mais il n'y a pas eu de communication. À la fin, in extremis, on a raccroché les wagons. C'est-à-dire que, certes, on s'efforce d'améliorer l'alimentation des citadins, mais on ne se pose pas la question d'où va venir cette alimentation durable. On ne considère pas ça. Alors qu'il y a un levier formidable de développement. Hein. Et à la chaire UNESCO, le premier colloque que nous ayons organisé, ici au Palais de la Découverte, il s'appelait « Nourrir les villes et développer les campagnes ». Alors moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que cette histoire de développement, et ça intéresse l'IEDAT évidemment, l'aménagement du territoire, attention au rural, parce qu'il y a un gisement d'activité et d'emploi dans une vision postmoderne, hein, évidemment, qui est fantastique et qu'il ne faut pas laisser échapper avec un tout urbain, etc. Et dernière chose que j'ajouterai, c'est que cette postmodernité, elle ne va pas venir des agriculteurs qui sont en place aujourd'hui. Bon, d'abord, ils sont âgés, la moyenne d'âge est élevée, mais ça va venir des néo-ruraux. Il y a de plus en plus d'exemples de cadres supérieurs, parisiens ou lyonnais, etc., qui abandonnent leur job dans les grandes entreprises et qui veulent aller dans l'activité agricole, rurale, etc. Et alors là, vous avez un gisement d'innovation fantastique, parce qu'eux, ils vont passer à l'agriculture multifonctionnelle.
J'ajouterais que moi-même, je trouve que les collectivités territoriales, et surtout la région, comme tu le dis, ont un rôle très très important pour catalyser ce changement. Parce que, comme tu le dis, ça ne va pas venir des organisations professionnelles. Mais les organisations professionnelles ont un pouvoir d'encadrement absolument extraordinaire. Il n'y a pas de profession au monde, je dis bien au monde, plus encadrée que la profession agricole française. Hein. Elles ont des coopératives, des syndicats, des chambres d'agriculture, des banques. C'est absolument phénoménal. Enfin, c'est lié à la politique de la Troisième République que j'évoquais ce matin. Et donc, si les collectivités territoriales arrivent à passer des alliances fortes sur ces programmes territoriaux de l'alimentation et de faire bouger les organisations professionnelles pour les amener à l'encadrement de ces populations qui vont arriver et qui ont besoin d'un encadrement, on a un déclic là qui peut être extrêmement puissant, d'autant que le deuxième pilier de la PAC, et c'est quand même 3 milliards, hein, le deuxième pilier de la PAC, il est sur l'innovation territoriale. Il est sur l'alimentation, il est sur la multifonctionnalité. Et donc il y a un levier. Et les régions, là j'ai un petit regret, Les régions qui avaient accepté d'être autorité de gestion sur le deuxième pilier sont en train de l'abandonner, ça va revenir à la SPEC, etc. Bon, bref, peut-être que tout ça... Enfin, là, c'est dommage, quoi. C'est dommage que les régions s'emparent pas de cette autorité de gestion sur le deuxième pilier, parce que si elles ont cet outil-là et un vrai projet alimentaire et territorial sur la région, avec l'argent, avec ces 3 milliards... Il y a quand même moyen de faire un tout petit peu bouger les choses. Donc c'est pas tout ça est pas voilà, c'est pas absolument désespéré. Oui, madame.
Caroline Callens, je travaille à l'Agence régionale de santé PACA. La position que vous nous présentez, elle est partagée par les. C'est vraiment une question naïve, hein, parce que c'est pas mon domaine. Elle est partagée par. Les administrations centrales, le ministère, ou c'est une position originale?
Non, je peux le dire parce que je suis universitaire, totalement libre. Non, pas dire ça. Et même il y a des difficultés, je vois dans les discussions avec la métropole à Montpellier, ou avec l'Occitanie pour le programme régional, etc., il y a des difficultés à intégrer cette approche, hein. Et là, ça vient de l'organisation en silo dont j'ai parlé. Il faudrait pouvoir créer un exécutif, hein, sur l'alimentation, ou au moins... Alors si on a un bon exemple en France où ça a marché, c'est en Nord-Pas-de-Calais, dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais, il y a eu un programme alimentaire très ambitieux, qui a commencé d'ailleurs par des assises régionales sur l'alimentation, avec un débat très ouvert, etc., et qui a débouché sur des propositions très avancées. Et alors tout ça, c'est dû à... Il faut toujours un leader, hein. Une figure charismatique. Il y avait un élu, là, un vice-président, qui portait ça. Et bon, mais malheureusement, il n'a pas été reconduit. Et aux élections, c'est tombé à l'eau, hein. Mais je pense qu'il faudrait, dans l'organisation administrative, il faudrait avoir une approche qui soit davantage fonctionnelle que sectorielle. Là, on a une approche, le ministère de l'Agriculture, c'est l'agriculture, etc. Et par essence, l'alimentation, c'est plurifonctionnel, c'est polysémique, etc. Voilà. Mais je peux vous dire que dans la communauté scientifique, il y a beaucoup d'articles, etc., sur cette voie alternative. Et bon, on parlait tout à l'heure de l'importance de ce mouvement. Même aux États-Unis, l'USDA, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture des États-Unis, sort maintenant des rapports sur ce qu'on appelle local food, hein. Et il y a 10% des agriculteurs américains qui sont déjà dans le système des circuits courts, hein. Et c'est plébiscité par les consommateurs. Mais c'est comme en France, hein. HCC, haut revenu, etc. Mais ça fait tache d'huile, évidemment, hein, progressivement. Et derrière, les filières se modifient.
Et pour rebondir sur la même question, mais d'un autre point de vue... Parler de l'État et du point de vue des agriculteurs et notamment des syndicats agricoles dont on sait quand même la puissance. Est-ce que cette réflexion elle est mûre aussi d'arriver au bout d'un système ou pas du tout?
Oui. Mais je crois, quand on discute off of record, comme on dit, en dehors d'enregistrement avec les leaders, ils sont conscients de ça et ils se disent il faut prendre un virage. Mais les troupes ne suivent pas, hein, pour des raisons d'inertie que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand vous maîtrisez un modèle technique, un modèle économique, et que grâce à la PAC, vous arrivez à survivre, on se dit, et qu'on est âgé, on se dit, il vaut mieux pas bouger. Donc l'essentiel des troupes, hein, mais il y a, bon, à mon avis, il y a des discours du point de vue intellectuel plus féconds du côté de la coordination rurale, par exemple. La Confédération paysanne.
Bien sûr.
La Confédération paysanne. Ils sont très proches de cette vision système alternatif territorialisé, etc. Donc je pense que les dirigeants sont convaincus, mais ensuite il faut convaincre les troupes, ce qui est beaucoup plus compliqué. Mais qui va convaincre finalement? C'est le marché, donc c'est le consommateur. Et là, on assiste, hein, Pascal l'a très bien montré, on assiste à une mutation en profondeur. Donc si les acteurs économiques ne comprennent pas qu'on est en mutation, eh bien progressivement ils vont être éjectés du marché. Comme ça que les choses vont bouger.
Je voudrais ajouter que sur ce problème des modèles alternatifs et des exploitations agricoles de proximité, l'exemple des États-Unis est tout à fait intéressant puisque aux États-Unis depuis une dizaine d'années, le nombre d'exploitations agricoles a cessé de diminuer. Alors ça ne veut pas dire que le paysage est resté étal, non, il s'est recomposé autour de cette tripolarité que j'évoquais, et ce qui explique la stabilité du nombre d'exploitations agricoles aux États-Unis, c'est l'extraordinaire croissance des agricultures de proximité, des agricultures périurbaines et des marchés urbains paysans, disons, et de proximité. Donc, c'est un phénomène, c'est Sophie Devienne d'AgroParisTech qui a analysé ça de très près. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout. Ça cesse d'être anecdotique, et ça pour devenir vraiment un phénomène ancré avec des résultats économiques et une viabilité économique. Même s'il n'est pas dominant, mais il est stabilisé. Bien. On s'en tient là. Avant d'aborder la consommation militante, qui sera le troisième volet de cette reterritorialisation des agricultures et de l'alimentation. Merci Jean-Louis.